收听的是
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec Lucien Mouzel de la rédaction brésilienne. À propos du dernier rapport du GIEC sur le climat et les enjeux pour le Brésil et l'Amérique latine, ce sera notre focus. Pizemam de la rédaction cambodgienne, car la criminalité à Sihanoukville, une ville cambodgienne, devenue un paradis des bandits chinois, vous nous en parlerez. Et puis voilà, pour la rédaction en espagnol, Asbel López.
Hola.
Qui a rencontré un photographe colombien qui a travaillé sur les églises en France. Mais tout d'abord, ce qui fait la une de l'actualité, c'est bien sûr la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de choses à dire. Les dernières informations sont à retrouver dans les journaux de RFI. Dans Accent du Monde, intéressons-nous plus particulièrement à ce qui s'est passé à l'Assemblée générale de l'ONU. Elle a condamné l'invasion russe de l'Ukraine par 141 voix contre 5 et 35 abstentions. Et puis la Russie est suspendue ou exclue de nombreuses compétitions sportives, y compris les Jeux paralympiques, qui viennent tout juste ce vendredi de commencer à Pékin. Alors prenons un peu de recul, posons-nous la question de savoir si Moscou est aussi isolé internationalement que ses résultats du vote à l'ONU l'indiquent. Asbel López, notons d'emblée qu'aucun pays d'Amérique latine a voté contre cette résolution.
Oui, mais il y a eu cependant 4 abstentions, Cuba, Nicaragua, El Salvador et la Bolivie. Le Venezuela, de son côté, n'a pas pu voter car le pays n'a pas honoré sa dette envers l'ONU en tant que membre de l'organisation. Mais le président vénézuélien Maduro est un fervent défenseur de Poutine. Il a même dit que Poutine était un super-héros. Nous pouvons donc parler de 5 pays de l'Amérique latine qui ne condamnent pas l'invasion russe de l'Ukraine.
En général, Asbel, les pays qui se sont abstenus ou qui soutiennent Moscou sont d'extrême gauche ou de gauche. Cuba, Venezuela, Nicaragua et Bolivie. Pourquoi est-ce que le Salvador, dirigé par un président populiste de droite, s'est-il abstenu aussi?
Car l'administration Biden est très critique vis-à-vis du président Bukele. Celui-ci s'est beaucoup éloigné de Washington. Voici ce que nous a expliqué Carlos Malamud, expert de think tank Real Instituto Elcano à Madrid.
Diferencia de lo que había ocurrido con Trump, que tenía una actitud totalmente prescindente a lo que ocurría dentro de El Salvador, está escrutando, mirando.
Que vous a dit Carlos Malamud?
Eh bien, l'administration Trump était indifférente à ce que faisait Bukele. Mais l'administration Biden, au contraire, est très critique vis-à-vis des évolutions autoritaires de son gouvernement. Washington est très inquiet par le contrôle de Bukele sur le Parlement, la presse, la justice, ainsi que les violations des droits de l'homme. Tout ceci a eu comme conséquence une sorte de conflit ouvert entre les deux gouvernements. L'abstention à l'ONU d'El Salvador est une façon pour Bukele de faire payer l'administration Biden. C'est le retour du bâton, en quelque sorte.
Abstention également de la Bolivie. Est-ce que c'est par un réflexe anti-américain, anti-impérialiste?
Oui, en partie. Enfin, c'est en tout cas ce qu'y pense Malamud. Une grande partie de la gauche latino-américaine utilise le prisme des années 70 pour lire ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est très improbable que des pays comme Cuba, Venezuela, Nicaragua et la Bolivie s'alignent avec les États-Unis et les Occidentaux. La Bolivie a justifié son abstention en mettant en cause l'OTAN. Selon le gouvernement d'Arce, l'OTAN met en péril la sécurité d'autres États. En somme, la Russie est un pays menacé par les Occidentaux à travers l'Ukraine. Nous avons interviewé un autre membre du think tank Real Instituto Elcano, Rogelio Núñez. Cet expert s'est montré scandalisé par l'abstention de la Bolivie. Je vous propose de l'écouter.
Que Bolivia no se posicione contra Rusia cuando Rusia está invadiendo un país.
Quelle est son analyse?
Il parle d'une vieille revendication de la Bolivie pour un accès à la mer à travers le territoire du Chili. Cela fait 130 ans que les Boliviens se battent pour avoir cette sortie vers la mer qu'ils ont perdue lors de la guerre du Pacifique. Les Boliviens accusent un pays, le Chili, d'avoir envahi son territoire et de les avoir privés de l'accès vers la mer. Mais selon Núñez, la prochaine fois que la Bolivie va se plaindre de ne pas avoir un accès à la mer, il faudra lui rappeler tout simplement qu'un pays voisin, le Chili, l'a envahi et la Bolivie n'a pas su à se plaindre. De la même façon que c'est la loi du plus fort dans le cas de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine et que la Bolivie n'a pas condamné, c'est aussi la loi du plus fort entre le Chili et la Bolivie. Si nous sommes dans cette logique du plus fort, la Bolivie n'a aucune réclamation à faire au Chili, toujours selon Núñez.
Lucien Mouzel, parlons maintenant de ces deux pays qui ont surpris en votant pour la résolution condamnant la guerre menée par la Russie, à savoir le Brésil et l'Argentine. Au début de la crise, ces deux pays avaient affiché une certaine neutralité. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont voté finalement pour ? Commençons par le Brésil. Pourquoi pareille hésitation ?
Oui, le gouvernement brésilien joue à l'ambiguïté calculée dans cette crise, il faut le dire. D'une part, le président Jair Bolsonaro laisse penser qu'il soutient le président Poutine, en qui il voit un homme fort, selon ses propres mots. Je vous rappelle que nous aurons les présidentielles au Brésil cette année pour l'électorat d'extrême droite qui soutient Bolsonaro. Poutine représente un leader nationaliste majeur, tel était d'ailleurs Donald Trump aux États-Unis. Rappelons-nous aussi que Joe Biden et Bolsonaro ne sont pas vraiment copains et le tour est joué là. Donc, juste avant l'éclosion de la guerre, lors d'une visite officielle qu'il a faite en Russie à la mi-février, Bolsonaro a exprimé sa solidarité à la Russie. Ce positionnement lui a coûté très cher à l'égard des États-Unis, qui étaient vraiment mécontents de ses déclarations. Ensuite, la pression en interne est montée au Brésil pour qu'il soit davantage critique de Moscou compte tenu de la guerre qui avait enfin débuté. Et en plus, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon se sont rejoints à cette pression internationale envers le gouvernement brésilien. Le résultat, nous l'avons vu à l'ONU, la position officielle du Brésil est donc pour la condamnation de l'offensive russe, pour la rentrée des troupes de Moscou. Et une solution diplomatique aussi.
Voilà pour le Brésil. L'Argentine à présent, Lucia, le président de gauche Alberto Fernandez, joue également à cette ambiguïté. Lui aussi était en Russie en février pour se rapprocher de Vladimir Poutine.
Oui, tout à fait. Et c'est drôle, hein, comme ces deux présidents aussi différents peuvent à la fin se retrouver plus ou moins du même côté par rapport aux actions de Moscou, misant sur une certaine neutralité, un regard biaisé sur ce conflit. Ce qui motive le gouvernement argentin, en tout cas, sont des raisons complètement différentes de celles de Bolsonaro au Brésil. Là, on parle de la volonté historique des gouvernements de gauche latino-américaine de prendre leur distance par rapport à Washington, dans ce qu'on appelle une politique étrangère non alignée aux Américains. Donc, se rapprocher des puissances comme la Russie est normal. Et M. Fernandez était chaleureusement reçu à Moscou début février, a proposé à Poutine la possibilité d'avoir l'argent comme, je cite, une porte d'entrée pour les Russes dans l'Amérique latine, d'une façon plus décisive, comme il a dit. Et au-delà des partenariats économiques entre les deux pays, Buenos Aires a fortement misé sur le vaccin russe Sputnik V contre le Covid-19 pendant la pandémie, entre autres signes de rapprochement. Mais en Argentine aussi, la pression interne monte pour un positionnement plus dur à l'égard des Russes au fur et à mesure que la guerre avance et les conséquences humanitaires émergent. Les Argentins ont donc voté pour la résolution de l'ONU.
Et bien évidemment, la diplomatie est étroitement liée aux intérêts économiques et politiques des uns et des autres. Brésil et Argentine approuvent-ils les sanctions occidentales contre la Russie qui impactent le commerce international ?
Tous les deux s'y opposent. Pour le Brésil, la Russie représente un partenaire économique capital. Plus de 60% des produits fertilisants utilisés dans l'agriculture brésilienne sont russes. Eux, ils sont les principaux exportateurs mondiaux de ces produits, indispensables à la performance du Brésil, qui à son tour est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de matières premières. Alors le discours diplomatique s'allie bien sûr aux intérêts économiques. L'Itamaraty, c'est le Quai d'Orsay brésilien, insiste que même si les sanctions visent la Russie, elles finiront par pénaliser tout le monde. Même discours du côté argentin, pour qui les sanctions ne sont pas un mécanisme générateur de paix ni de dialogue.
Pizemam, voyons ce qui s'est passé maintenant en Asie. Alors que la Chine, grand ami du gouvernement cambodgien de Hun Sen, s'est abstenue lors de ce vote à l'Assemblée générale de l'ONU, le Cambodge, lui, a voté pour le texte qui condamne la Russie.
Oui, en effet, Philippe, le gouvernement cambodgien s'est fièrement affiché son soutien à l'Ukraine en votant pour la résolution de l'ONU condamnant la Russie. Tandis que la Chine et les deux autres pays voisins du Cambodge, le Laos et le Vietnam, ont choisi l'abstention. En plus, le Cambodge fait aussi partie des pays co-auteurs de ce texte de résolution. D'habitude, le gouvernement de M. Hun Sen se débrouille toujours pour s'aligner derrière Pékin, mais pas cette fois-ci. C'est d'autant plus inédit si on revient 40 ans derrière, c'est-à-dire après la chute du régime des Khmer Rouges, où le Cambodge était sous la protection de l'Union soviétique, grâce à laquelle l'armée vietnamienne a intervenu au Cambodge et a installé M. Hun Sen au pouvoir.
Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette prise de position, Pizer?
Alors, je vous invite à écouter M. Hun Sen, s'il vous plaît.
Que dit le Premier ministre?
Alors, il dit que pour lui, la guerre ne peut pas être une solution. Il ne soutient pas l'utilisation de forces armées de la part d'un autre pays contre un autre pays. Mais en même temps, il a dénoncé aussi l'Occident qui a fourni les armes à l'Ukraine. Certains analystes politiques cambodgiens disent que M. Hun Sen cherche à polir son image auprès de la communauté internationale en condamnant la guerre que Poutine est en train de faire en Ukraine. Il faut noter que la position du Cambodge est très scrutée aussi car le Cambodge préside l'ASEAN en ce moment. D'ailleurs, les dirigeants de l'ASEAN vont se réunir à Washington à la fin de ce mois avec le président Biden. Par cette prise de position, M. Hun Sen veut s'afficher comme un dirigeant qui veut la paix et qui veut coopérer avec tout le monde sans avoir à choisir le camp entre les États-Unis et la Chine, par exemple.
Et puis, certainement que le chef du gouvernement cambodgien a entendu l'opinion publique cambodgienne, ses concitoyens qui sont très remontés contre la Russie ces derniers jours. On le voit sur les réseaux sociaux. Hein.
Oui, c'est vrai, Philippe. L'opinion publique cambodgienne sur les réseaux sociaux s'intéresse beaucoup à cette crise russo-ukrainienne. Cela le rappelle l'histoire douloureuse du Cambodge, prise en tenaille entre les deux superpuissants idéologiques. La bravoure du peuple ukrainien et surtout celle du président Zelensky ont ému beaucoup de gens au Cambodge. La position de M. Hun Sen contre la guerre faite par la Russie le place directement au cœur de l'opinion publique cambodgienne. La paix et la stabilité sont aussi des arguments qu'il exploite pour rester au pouvoir au Cambodge.
Lucien Mouzel, encore une chose, le Brésil accueille une importante communauté ukrainienne. Est-elle prête, en tout cas, est-ce que le pays, lui, est prêt à recevoir des réfugiés venus d'Ukraine?
Oui, au moins cette communauté ukrainienne au Brésil est vraiment prête à les accueillir. C'est la plus nombreuse de l'Amérique latine avec plus de 600 000 descendants ukrainiens. Leurs familles ont choisi de s'installer au Brésil il y a plus de 130 ans. Pardon. Et dans notre rédaction, ma collègue Marcia Bechara a interviewé Vittorio Soriuchuk. C'est le président d'une association de cette communauté réunie à Curitiba. On l'écoute.
Nós estamos recebendo uma maré de solidariedade inimaginável. Nós já estamos com o apoio.
J'ai compris, le mot inimaginable n'est pas le reste.
Voilà. Il dit que les Ukrainiens au Brésil reçoivent en ce moment une vague de solidarité inimaginable. Il cite ensuite le soutien de plusieurs États brésiliens comme São Paulo, Paraná, ainsi qu'une dizaine de villes et plusieurs associations humanitaires qui s'organisent déjà pour recevoir ces réfugiés ukrainiens. Mais pour l'instant, ce monsieur n'avance pas de chiffres plus précis, Philippe.
Juste pour la petite histoire, inimaginable est le terme brésilien?
Bah oui, on peut le dire. Oui,
oui c'est le même mot en brésilien qu'en français.
Oui.
Merci à vous. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
This is Radio France International.
Paris, RFI, $100.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Parlons maintenant d'une autre guerre, guerre menée celle-là contre le réchauffement climatique. Cette semaine, le GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts de l'ONU sur les changements climatiques, a révélé le deuxième volet de son énorme rapport. Et il montre que l'impact sur les populations et la capacité de s'adapter à ce réchauffement climatique est bien problématique. Lucien Mouzel, on vous retrouve de la rédaction brésilienne. Vous êtes particulièrement intéressé à ce qui concerne l'Amérique latine. Cela concerne la grande vulnérabilité des grandes villes du continent et les risques d'inondation.
Oui, c'est ça. Figurez-vous, hein, Philippe, le rapport a pu établir que plus de 35% des personnes dans cette région du globe n'ont pas accès à un logement digne, à commencer par le fait qu'ils sont construits dans des zones irrégulières, avec tout le risque que cela implique. Nous avons encore vu une catastrophe naturelle se répéter récemment au Brésil, à Petrópolis, dans l'état de Rio. Un gisement de terre a causé la mort de plus de 230 personnes en février. Et ce n'est pas un hasard si la plupart de ces morts étaient des personnes très défavorisées. Ce problème, bien sûr, on le retrouve partout dans le monde, même ici en France, on l'a déjà vu, mais notamment dans les pays pauvres. J'ai pu interviewer l'urbaniste Maria Fernanda Lemos. Elle est une des autrices du rapport du GIEC. Elle a coordonné le chapitre sur la précarité urbaine dans l'Amérique latine. On l'écoute.
Isso é um impedimento, é uma barreira. Essa condição, ela atrasa a possibilidade de adaptação, né? Então,
que vous a expliqué Maria Fernanda Lemos?
Elle dit que cette réalité exerce une barrière contre l'adaptation des pays latino-américains au changement climatique. L'informalité, la pauvreté dans les zones urbaines sont des facteurs déterminants pour la vulnérabilité des peuples, car l'adaptation nécessaire nécessite une organisation à plus long terme afin de permettre la transformation verte des villes en prenant en compte des aspects humains et écologiques aussi.
Alors, les experts du GIEC sont clairs, sont formels. Les actions prises jusqu'à présent pour nous adapter au changement climatique sont insuffisantes. Et bientôt, notre capacité même à pouvoir leur faire face sera affectée. Le défi est encore plus dur, plus important pour les populations les plus pauvres.
Bien sûr, quand on n'a pas d'argent pour le faire, c'est beaucoup plus dur. Le rapport dit que la fenêtre d'opportunité est en train de se refermer devant nous et l'humanité ne se rend pas compte à quel point elle est en train de perdre du temps quand elle ne fait rien ou presque pour se protéger. Donc j'ai longuement discuté avec une autre experte brésilienne, Patricia Pinho, spécialiste des peuples indigènes, car ce n'est pas que au milieu urbain qu'on va souffrir les conséquences de la crise climatique, loin de là. Madame Pinho a apporté ses contributions au chapitre pauvreté et développement durable. Elle a expliqué que le rapport désigne la couleur, le genre, l'ethnie et la géographie des plus vulnérables à cette crise. Écoutons ce qu'elle a à dire sur les peuples indigènes de l'Amazonie.
Ce rapport, il traite la couleur. Ele traz o gênero, ele traz a raça, né, a etnia.
Que dit-elle?
Elle explique que la dégradation des forêts entraîne la perte de biodiversité dont les Indiens ont besoin pour survivre, tout simplement. Et en plus, la plus forte récurrence des phénomènes extrêmes comme la sécheresse affecte la productivité agricole dans les tribus et abîme davantage la forêt, ce qui met encore en échec la capacité de certaines populations fragiles à s'adapter. C'est pour ça que l'on parle de plus en plus du concept de justice climatique, bien que ce terme ne soit toujours pas adopté de manière officielle à l'ONU, les pays riches s'y opposent pour le moment.
Lucia, la forêt elle-même a une énorme capacité à se régénérer, mais il y a des limites. Une forêt tropicale, comme l'est l'Amazonie, peut-elle survivre à la répétition d'épisodes de sécheresse extrêmes ou prolongés?
C'est tout l'enjeu, car une forêt comme l'Amazonie, elle est cruciale pour la régulation du climat de tout le continent américain. Mais si d'une part, nous la détruisons de plus en plus et de l'autre, la température de la Terre monte, c'est tout cet équilibre qui est menacé. Jean Ometo est spécialiste du climat des forêts tropicales et lui aussi a participé au chapitre dédié de ce rapport du GIEC. On va l'écouter.
Então, a fragmentação da paisagem, a fragmentação das áreas de conectividade em floresta levam a uma vulnerabilidade maior à questão climática.
Que constate Jean Ometo?
Que l'activité agricole dans l'Amazonie, mais aussi au Cerrado brésilien, sont en train de fragmenter la forêt, de rompre sa connectivité, comme l'a expliqué. C'est comme dans une armée, cela la rend plus vulnérable au dérèglement climatique. Et c'est pour ça que même si nous arrêtons arrêtions aujourd'hui tout de suite la déforestation, la forêt amazonienne serait déjà de toute façon plus susceptible au réchauffement climatique. Monsieur Ometo insiste donc qu'il fallait absolument prendre cela en compte et dès maintenant pour que les exploitations agricoles à venir soient plus, durables. Hein. Il faut prendre ça en compte lors de l'organisation de ces exploitations pour qu'elles soient moins mauvaises pour la forêt qui est déjà très dégradée.
Voilà pour ce constat alarmant du GIEC partout dans le monde et donc également, particulièrement, en Amérique latine. C'était Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne de RFI. Question: si Anouville serait-il devenu une sorte de Chicago des années 30? La question se pose tant cette ville cambodgienne est devenue un paradis pour des bandits chinois. Pizemam de la rédaction cambodgienne de RFI, racontez-nous avec un exemple précis et édifiant.
Oui, Philippe. Alors, mercredi 23 février, un journal chinois, Beijing Youth Daily, a publié une interview d'un homme qui a déclaré avoir été victime d'un scandale dit « esclave de sang » au Cambodge. L'homme de 31 ans s'est déclaré d'être enlevé par un réseau de mafias chinois avant d'être envoyé illégalement à Sihanoukville au Cambodge. Selon le journal New York Post, après avoir appris qu'il n'aurait pas d'argent pour payer le rançon, le gang mafieux chinois a choisi de l'utiliser comme producteur de sang. Le sang de cet homme appartient au groupe O négatif, très recherché donc sur le marché. Selon ses dires, au moins 7 autres hommes ont été détenus dans la même pièce que lui. D'après le journal South China Morning Post, le gang chinois a prélevé à cet homme 800 millilitres de sang chaque mois depuis le mois d'août de l'année dernière.
On croit halluciner. Hein. L'ambassade de Chine au Cambodge affirme que cette affaire est un mensonge, Pizem.
Oui, Philippe, quelques jours après ce scandale, le porte-parole de l'ambassade de Chine à Phnom Penh a indiqué que la police cambodgienne l'a informé des résultats préliminaires de l'enquête, selon lesquels cette affaire a été fabriquée. Selon la police locale, l'homme en question souffrait d'une maladie grave de foie et a ensuite contacté une organisation sociale pour obtenir de l'aide. Sans donner plus de détails, la police cambodgienne a indiqué que 3 personnes l'ont ensuite aidé pour fabriquer et diffuser ce mensonge.
Donc il est impossible de savoir ce qu'est la vérité.
Oui Philippe, c'est impossible de connaître la vérité, mais tout le monde le sait que Sihanoukville est devenue une enclave chinoise où les réseaux mafieux et les bandits chinois règnent en maître avec une certaine complicité des autorités cambodgiennes. Rien d'étonnant donc qu'il y ait des trafics d'organes dans cette ville. En quelques années, cette ville Sihanoukville, jadis paisible avec des plages sauvages, a devenu une ville de drogue, de prostitution, de casinos et des jeux en ligne tenus par des Chinois. Le taux de criminalité s'explose dans cette ville avec des assassinats, des règlements de comptes et des kidnappings, etc. Elle est devenue hors de contrôle pour les autorités cambodgiennes.
Oui, et ça ne s'arrête pas là, parce que le gouvernement cambodgien a d'autres projets pour céder des terrains à ces Chinois.
Oui, effectivement, malheureusement, le gouvernement cambodgien affiche une ambition pour faire de cette région côtière du Cambodge un futur Shenzhen de l'Asie du Sud-Est grâce aux investissements chinois. Sihanoukville n'est qu'une étape. À 15 km au nord de Sihanoukville, à Steng Hau, un central de charbon et un port en eau profonde sont en construction. Dans la province de Korkong, à côté, une cité touristico-industrielle de 360 km² doit accueillir 2 ports et un aéroport chinois, aujourd'hui presque achevé. Et à Riem, à une dizaine de kilomètres à l'est de Sihanoukville, la baie est en cours de polderisation afin de construire une smart city. Donc des milliers d'hectares de parcs nationaux tout au long de la côte cambodgienne vont être rasés d'ici peu. Les ONG environnementales ont dénoncé ces projets comme une catastrophe pour la biodiversité dans cette région côtière. D'autant plus ces projets chinois ne profitent guère à la population locale.
Et bien évidemment, la rédaction cambodgienne de RFI suit cela de très près. C'était Pizemam. Sur la volée de cloches de Notre-Dame de Paris avant son incendie, Asbel Lopez, vous allez nous parler des églises parisiennes, justement. Vu l'actualité lourde en ce moment, c'est un sujet pour le moins inattendu. Pourquoi ?
Car j'ai interviewé Ivan Segura Lara, un photographe colombien qui vient de publier un livre inventaire sur le sujet. Le titre, c'est « Église de Paris, archéologie du divin dans le paysage urbain ». C'est un livre qui compte presque 400 pages avec 345 photos. C'est un ouvrage de référence qui a le soutien du ministère français de la Culture et de la MAP, la médiathèque de l'architecture et du patrimoine.
On y voit entre autres la cathédrale de Paris avec sa flèche, donc avant l'incendie. Est-ce qu'il a photographié toutes les autres églises de Paris ?
Non, je ne pense pas. Il a photographié 116 églises et monuments religieux sur Paris. En principe, il y a 139 églises.
Mais bon, 139 églises, rien qu'à Paris.
Oui, rien qu'à Paris. Mais bon, le chiffre peut monter jusqu'à 200 si l'on compte d'autres monuments religieux. Il a fait de très belles photos avec du matériel professionnel. Il y a des photos de l'intérieur des églises en couleur, mais aussi des photos des façades des églises en noir et blanc. Et c'est une étude très minutieuse qu'il a réalisée pendant plusieurs années. Ivan Segura Lara est aussi l'auteur d'un livre remarqué de photographies sur les bibliothèques de Paris.
Alors, vous nous avez apporté ce livre, je l'ai entre les mains. Il faut avoir fait un peu d'haltérophilie avant de l'ouvrir. Il est très lourd, c'est un gros bouquin. C'est une édition de luxe. Pourquoi un photographe sud-américain se décide à faire un tel inventeur parisien?
Oui, avant juste quelques détails, Philippe. Le livre pèse effectivement 2,5 kg et coûte 98 euros. Et ce n'est pas un livre que se porte facilement sur les bras. Après avoir photographié les bibliothèques de Paris, Ivan Segura Lara passe tout naturellement aux églises, nous a expliqué le photographe. Mais aussi, dans l'avant-propos de son livre, il explique qu'il a été surpris de constater la relative indifférence qui entoure les églises de Paris. Elles sont nombreuses, mais comme invisibles aux yeux de Parisiens. Bien souvent, elles sont aussi vides ou presque vides. Et c'est un fait sociologique qu'il y a de moins en moins de croyants, de moins en moins de catholiques pratiquants. Ivan Segura a perçu comme un risque de disparition matérielle de la culture catholique. C'est à ce moment-là qu'il a choisi de concevoir un outil de réponse. Ce sera cet inventaire photographique minutieux, patient, exhaustif des églises de la capitale. Il commence à les photographier en 2006. Et le projet était bloqué. En tout cas, il allait très lentement. Et c'est justement l'incendie de Notre-Dame de Paris qu'il a finalement décidé à aller de l'avant.
Alors vous le disiez, bien souvent ces églises sont désertes, en tout cas elles sont photographiées sans les fidèles. Alors ce sont des églises vides, pourquoi ?
Oui, c'est le parti pris d'Ivan Segura. Il nous a expliqué qu'il voulait éluder l'aspect anecdotique et se concentrer sur l'architecture. À plusieurs reprises, d'ailleurs, il a dû attendre jusqu'à ce que les fidèles qui priaient partaient pour qu'il puisse prendre sa photo. S'il y a une figure humaine dans la photo, vous introduisez un point de référence. Or, son choix était de capter le vide autour duquel la religion chrétienne se structure et s'informe, à partir duquel elle communique, qu'elle fait sens. C'est pourquoi on peut dire que la collection des églises de Paris, assemblée par Ivan Segura Lara, est unique, belle et étrange.
Vous avez dit 345 photos. Quelle est l'église que préfère ce photographe ? Vous lui avez posé la question.
Oui, en effet. Et sa réponse m'a surpris, car il n'a pas évoqué les plus connues comme Notre-Dame, Saint-Sulpice, Saint-Roch ou Saint-Germain, l'Auxerrois. Non. Il nous a parlé d'une église qui n'est pas très loin de Réfi, pas très loin d'ici, de le 15e arrondissement. Une église pas très connue des Parisiens.
Esa pequeña Notre-Dame de Nazaret en el barrio 15 es tal vez emblemática de lo que sucede hoy en día con
las iglesias. On a compris que c'était Notre-Dame de Nazaret qui avait sa préférence. Pourquoi ?
C'est une paroisse à côté d'un terrain de foot pour un patronage. Elle est située entre plusieurs immeubles cachés. Elle est comme perdue entre les murs invisibles depuis la rue Lecourbe. Il faut vraiment la chercher pour la trouver. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, car cette église est située pas très loin de chez moi. Or, je ne la connaissais pas. C'est grâce à Ivan Segura que je l'ai découvert.
Alors, quelques informations pratiques, puisque vous nous donnez envie d'acquérir ce livre.
Et oui, il faut directement s'adresser à Ivan Segura. Ce livre ne se vend pas dans des librairies ni sur Amazon, attention. Ivan Segura fait tout le travail, non seulement il prend les photos, mais aussi il assure la distribution de son livre. C'est presque du porte-à-porte. Il faut contacter directement Ivan Segura Lara aux éditions AEL. Et sur Internet, vous allez trouver facilement son site Internet. Et je vous rappelle le titre du livre, Église de Paris, archéologie du divin dans le paysage urbain. Ivan Segura Lara.
Pour la modique somme, si je puis dire, de 98 euros, Asbel Lopez, de la rédaction espagnole de RFI. Accent du monde, réalisé par Jean-Philippe Thury ce soir. Merci d'être fidèle à cette émission que vous pourrez retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale. Mondoblog.